Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
C'est une offre qui est faite, qui s'ajoute à une convention collective toute récente. Hein. La convention collective a été signée, si je ne me trompe pas, c'est les premiers jours d'août. Convention quand même qui prévoyait pour les infirmières, pour le personnel de la santé, des améliorations assez substantielles. Madame Lebel, bonjour.
Oui, je suis vraiment désolée, Mario.
Ah, là, c'est clair. Donc, donc parlez-nous. Puis je suis en train de dire, il y a un lien à faire parce que ça peut être compliqué pour les gens. On vient de signer une nouvelle convention collective qui devait régler les problèmes, améliorer les conditions de travail. Puis là, oups, on remet des chèques sur la table.
Oui, mais je comprends très bien. Puis la convention collective, dans le fond, l'idée de la convention, c'est toutes des mesures pour aider justement à atteindre ce but-là. Mais avec la deuxième, troisième vague qu'on vient d'avoir, la quatrième vague successive, on a eu naturellement des départs massifs. Et toutes les belles mesures de la convention collective, le suivi du temps supplémentaire obligatoire pour le réduire, presque l'éliminer dans les cas où c'est possible, de ne plus faire recours aux agences, mais tout ça, ça nous prend du monde. Et c'est vraiment la quatrième vague qui est venue, un peu changer le plan de match. Donc, et cette convention collective-là, on a introduit, les infirmières vont comprendre de quoi je parle, la notion de ratio, c'est-à-dire d'avoir des équipes de travail suffisantes, réduire le nombre de patients par infirmière pour leur donner mieux, des meilleurs soins, du personnel administratif pour venir dégager les infirmières du travail clérical pour leur permettre d'aller faire des soins sur le plancher. Donc, tout ça, ça fait partie de l'entente qu'on a, mais c'est une entente, vous savez, qui veut restructurer le réseau. Ça fait des années qu'on négocie des conventions collectives qui nous amènent là, inexorablement vers le mur qu'on connaît. Et ça, c'est structurant, c'est sur plusieurs années. Ça peut prendre quelques mois avant que ça s'implante dans le réseau et qu'on puisse en voir les effets bénéfiques. Mais là, avec la quatrième vague, là, on s'est dit, ça se peut pas. On ne peut pas attendre que la convention qu'on vient de négocier, qui est à l'écoute des besoins des infirmières, prenne tout son effet. Donc, dans le fond, là, c'est un peu du gaz en convention qu'on vient mettre. J'appelle ça, moi, un accélérateur, une passerelle, pour que toutes ces mesures-là qu'on a négociées, qui veulent dénouer là, toutes les impasses qu'on avait, qui empêchaient d'avoir des horaires de 12 heures, d'avoir de la prévisibilité, une qualité de vie qui est meilleure, ben, c'est avec ça qu'on pense le faire. Mais pour ça, on a besoin de monde rapidement.
La présidente de la FIC est déçue. La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, Mme Bédard, quelques minutes après la conférence de presse, donnait des entrevues, se dit déçue. Vous venez de mettre 1 milliard sur la table puis pour vous faire dire qu'ils sont déçus?
Ben, je comprends pas sa déception, honnêtement, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle cette semaine et elle m'a réitéré que ce qui était important, c'était un suivi serré du temps supplémentaire obligatoire, un désengagement.
Là, elle voudrait que vous vous engagiez comme gouvernement à dire il n'y en aura plus du tout de temps supplémentaire obligatoire. J'ai vu ça vite, la réaction, mais c'est ce que j'en comprends. C'est qu'il faudrait que vous engagiez plus aucun.
Bon, alors elle va comprendre, justement, de nos discussions et de la conférence d'aujourd'hui, que c'est mon collègue, c'est ce qu'il a dit, qu'elle allait faire un suivi serré, mais elle doit comprendre qu'avant d'être capable d'éliminer ou de réduire le temps supplémentaire obligatoire à sa plus simple expression, c'est-à-dire juste dans les moments qui sont vraiment nécessaires, qu'on peut convenir dans une discussion ensemble, ben il faut que ça nous prenne du monde. Fait que donc, l'idée, c'est ramenons le plus rapidement possible des gens qui ont quitté. Demandons aux gens de rehausser, c'est-à-dire de passer le plus possible du temps partiel autant complet pour avoir plus de force vive de travail. Et là, on va être capable de travailler comme on l'a dit. Puis comme je lui ai dit cette semaine, et mon collègue lui a dit dans les conversations qu'on a eues avec elle cette semaine, d'avoir cette cible-là. Et ce qu'elle nous demandait textuellement, c'est de s'engager à faire un suivi serré du temps supplémentaire. Et c'est exactement ce que Christian Dubé a dit aujourd'hui à la conférence de presse. Je vais faire un suivi serré, comme je l'ai fait pour la vaccination, sur le terrain. Mes PDG vont être imputables de ce suivi pour qu'on puisse diminuer drastiquement et significativement à court terme le temps supplémentaire obligatoire et à plus long terme, ben le réduire à ce qui devrait être une mesure complètement exceptionnelle.
Ouais. Mais ça n'a pas l'effet d'une douche froide. Je me mets pour des infirmières ou celles, mettons, qui sont passées dans les agences privées. Ils voient une nouvelle offre du gouvernement. Ah, puis la FIC est déjà déçue. ça a pas l'effet inverse de ce que vous recherchez? Est-ce que la FIC aurait pas dû avoir un devoir de dire, si on a besoin de monde dans le réseau, de participer avec vous au recrutement, de dire à toutes les infirmières, allez donc voir, prenez le temps de regarder cette entente à fond, de cette offre à fond, etc. Je saisis mal, là.
Ben, on a une volonté commune, moi je peux dire, moi et Mme Bédard, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie pour les infirmières. On parle des conditions d'exercice, mais dans les faits, là, c'est une meilleure qualité de vie, hein, on s'entend.
Ben, avez-vous l'impression que son propos vous nuit dans le recrutement?
Ben, je pense que son propos nous nuit et nuit aussi à ses membres, parce que je pense qu'elle a le droit de faire ses revendications. Elle les a fait. Elle nous parle de temps supplémentaire obligatoire, elle nous parle des agences privées, elle nous parle des ratios depuis longtemps. C'est ce qu'elle a obtenu. Elle devrait être fière de sa convention, puis parce qu'elle a obtenu pour ses membres des conditions d'exercice meilleures. Mais elle le sait comme moi que pour être capable d'y arriver ensemble, il faut qu'on ramène les gens dans le réseau. Nous, là, on fait ce qu'on peut pour le faire. On est là. On est présent pour rencontrer les objectifs qu'elle nous a posés. Et on veut les rencontrer. Oui, j'avoue qu'elle aurait pu prendre un grand respire là, et un temps d'arrêt pour évaluer la situation. Et là, on lui a tendu la main. Là. On est prêt à travailler avec elle. Mais pour ça, là, il faut inverser le cycle. Il faut avoir des gens pour le faire.
Ouais. Comme présidente du conseil, juste pour rendre ça clair, je pense aux contribuables pour un instant, parce que ce que vous avez signé comme convention au mois d'août, juste pour dans le secteur de la santé, c'est combien de plus par année là, en augmentation de salaire? Le chiffre m'échappe, mais c'était plusieurs centaines de millions.
Oui, c'est plusieurs centaines de millions. Écoute, honnêtement, Mario, je suis vraiment désolée, mais le chiffre exact m'échappe. Je ne voulais pas te
donner. Le point, c'est qu'on ajoute un milliard aujourd'hui. Bon, ça, je comprends qu'il n'est pas récurrent. C'est une fois. Là. Mais quand même, c'est énormément d'argent. Le contribuable va finir par dire, moi, je vais en avoir pour mon argent et me bien traiter quand je vais aller à l'hôpital.
Ben, il a absolument raison, mais nous, au cœur de tout ça, le milliard, là, c'est sûr que tout ça, on est d'accord là, que je vais prendre une analogie, le toit coule depuis longtemps, mais on a un orage majeur qui s'appelle la pandémie, où il y a eu des vagues successives, et là, c'est catastrophique. Donc, on est dans la foulée de cette pandémie-là, où ce milliard non récurrent supplémentaire est vraiment pour nous aider à traverser la crise. Et quand on va se retrouver l'autre côté de tout ça, ben la convention va avoir eu le temps de prendre son plein effet pour être capable d'avoir enfin l'effet qu'on veut lui donner, c'est-à-dire avoir de l'air dans le réseau pour nos infirmières et nécessairement une meilleure qualité de soins pour les patients. Pour moi, c'est des vases communicants, là, c'est indissociable.
Est-ce que vous craignez, dans votre position, là, c'est vous qui êtes responsable de la rémunération de tout ce qui est secteur public, parapublic, comme responsable des cordons de la bourse, avez-vous l'impression que ça arrêtera jamais? Parce que là, c'est le gros thème, les pénuries de main-d'œuvre. Et là, après ça, on va dire, dans les services de garde, il nous manque de monde, augmenter les salaires. Je pourrais repasser, là, je pourrais m'amuser, l'enseignement, l'éducation. Tous les secteurs, il manque du monde. Faudrait des primes, bonus, augmentation de salaire, prime sur prime, une autre prime, puis une surprime. Que ça finira jamais. Puis tout ça, excusez-moi, là, c'est l'économiste qui parle, mais tout ça créant de l'inflation, finalement, l'augmentation du coût de la vie va venir rattraper tout le monde. Là, mais avez-vous l'impression que ça finira jamais, qu'on va vous demander... Ça va cogner à votre... Chacun de vos collègues ministres va cogner à votre porte et dire, Sonia, là, moi, j'y manque de monde, on manque de main-d'œuvre, faudrait que tu m'aides, faut que tu me sortes une prime.
Ah, mais c'est sûr qu'à un moment donné, on est comme tout le monde, hein, puis la pandémie aide pas, on a hâte que ça finisse, qu'on puisse reprendre le cours normal des affaires, comme on dirait, mais écoutez, on va les prendre un par un, on les analyse correctement. Des fois, les gens pensent sur le terrain que ça prend un peu de temps parce qu'on n'est pas intéressé, c'est pas le cas, c'est parce qu'il faut agir quand même de façon responsable. Ça demeure l'argent de tout le monde, c'est des fonds publics. Mon collègue Éric Girard a un déficit structurel à combler au cours des prochaines années qu'on a creusé parce qu'il fallait agir pendant la pandémie. Personne ne regrette ce qui a été mis sur la table et avancé jusqu'à présent parce que c'était nécessaire. On était dans un cas de crise, on n'est pas sorti de la crise. Mais c'est sûr qu'on prend à chaque fois, je pense qu'on peut faire vite et bien, mais on prend le temps à chaque fois d'analyser quelle est la cause de déficit, la pénurie de main-d'œuvre, comment on peut y arriver, c'est quoi le chemin, c'est-tu par la restructuration des conditions de travail, c'est-tu par l'ajout d'incitatifs, c'est-tu parce que le marché est pas bon pour tout le monde, puis quand même qu'on est plus compétitif, c'est de la formation supplémentaire. Dans le cas des infirmières, juste pour donner un exemple, Mario, il y a 80 000 infirmières au Québec. Là. L'Ordre des infirmières a des infirmières diplômées en masse pour couvrir les besoins du système de santé. Donc, On n'est pas dans une formation nécessairement accélérée à court terme, à tout le moins. À moyen puis long terme, c'est autre chose. Donc là, c'était comment on rapatrie ces infirmières-là dans le réseau privé, public, pardon, et comment on augmente la force de travail, donc les heures qui sont données par ces gens-là, puis comment on leur donne le goût de rester. Donc, c'était ça la question. Il y a d'autres cas comme les éducatrices de CPE, puis on pourra faire le tour de tous les sujets, où là, on manque, dans le bassin d'éducatrices, on manque d'éducatrices. Donc, mon collègue au travail, Jean Boulay, a mis sur pied un programme où on peut avoir de la formation en milieu de travail. Donc, on les paie pour se faire former, puis en même temps, on les fait travailler. Donc, parce qu'il faut avoir des forces immédiatement, puis en même temps, c'est un DEC, c'est une formation quand même qui est sur quelques années. C'est moins compressible qu'une formation de PAB, donc on peut pas le faire de la même façon. Donc, chaque cas de figure, je pense, a l'air d'avoir un dénominateur commun, c'est-à-dire le manque ou la pénurie, mais a pas nécessairement des solutions communes. Donc, il faut prendre le temps de le faire correctement, puis on va les étudier une par une. Mario, puis on peut pas faire autrement que ça.
Sonia Lebel, merci beaucoup.
Merci, bonne journée à tous.
La présidente du Conseil du Trésor, je profite du moment pour vous donner une nouvelle de toute dernière heure. Les amis, vous n'avez pas aimé la campagne électorale? Ben elle est finie, la campagne électorale, enfin. On vient d'avoir le résultat dans Broome-Missisquoi qu'on attendait. Donc, le vote par la poste a été compté. Et c'est la libérale. Revirement de situation là-bas. Le bloc, les libéraux étaient en avance toute la soirée. Le bloc avait pris l'avance, je pense, genre vers 11h30, minuit. Et depuis ce temps-là, on avait rentré des votes. C'était toujours le bloc qui menait. Eh bien, la libérale Pascale Saint-Onge, qui vient du secteur syndical, qui était du syndicat des communications, là, des médias, entre autres, a gagné. Vrai, écoutez, le vote postal était assez avantageux pour les libéraux parce qu'ils tiraient de l'arrière par 133 votes et finalement ils gagnent par quelque chose comme 140 quelques votes. Donc victoire libérale dans Broome-Missisquoi. Donc le bloc qui ne finit plus avec 34 sièges, mais bien avec 33.